taux de croissance de la population africaine pourrait provoquer une sérieuse concurrence. Dans la quête des ressources telles que l'énergie, l'eau et la nourriture, et même nuire à ses efforts de développement. Cette situation se produirait si les décideurs politiques et les scientifiques n'accordent pas l'attention voulue au changement climatique. Déclaration la semaine dernière de Carlos López, sous-secrétaire général des Nations Unies et secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique. C'était au sommet de Delhi sur les développements durables 2014. Comment analyser cette déclaration? C'est notre thème de ce soir. Nous abordons cette question avec René Ngongo, coordonnateur du programme des industries extractives à l'ONG internationale WWF. Monsieur Ngongo, bonsoir.
Bonsoir.
Gilbert Kilola, chef de division en charge du développement durable au ministère de l'Environnement, conservation de la nature et tourisme. Monsieur Kilola, bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur Kilola?
Bonsoir.
Voilà, merci. Professeur Dieudonné Mossibono, professeur à l'université de Kinshasa, il est environnementaliste et écotoxicologue. La réalisation me signale qu'il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Entre-temps, bonsoir chez vous et bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
En 2050, la jeunesse africaine à elle seule constituera plus d'un quart de la population active mondiale. Avec une classe moyenne montante et une urbanisation rapide à un rythme qui est plus de deux fois le taux de croissance urbaine de la planète de 3,7% par an. Conséquence, la demande en nourriture, énergie et eau augmentera invariablement. Ces propos sont du sous-secrétaire général des Nations Unies, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, Carlos López l'a dit au sommet de Delhi tenu la semaine dernière sur les développements durables 2014 en Inde. Kéline Couté revient sur cette déclaration.
Le sous-secrétaire général des Nations Unies et secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique a mis en garde que les taux de croissance de la population africaine pourraient provoquer une sérieuse concurrence dans la quête des ressources telles que l'énergie, l'eau et la nourriture et même nuire à ses efforts de développement si les décideurs politiques et les scientifiques n'accordent pas l'attention voulue au changement climatique. Dans un discours liminaire sur lutter contre les défis de l'énergie, de l'eau et de la sécurité alimentaire en Afrique, M. López a exhorté les gouvernements régionaux à adopter des politiques en faveur de l'industrialisation verte qui, si elles sont appliquées à juste titre, pourraient offrir des opportunités d'investissement incroyables et des réels dividendes. Il a fait valoir que l'une des principales voies de croissance pour l'Afrique est l'industrialisation, en rappelant qu'il a fallu 155 ans à la Grande-Bretagne pour doubler son PIB au cours de la révolution industrielle et l'Afrique a réalisé la même chose au cours des 12 dernières années. Rappelons que le sommet des Delhi sur le développement durable est organisé chaque année en tant que plateforme internationale pour faciliter l'échange des connaissances sur tous les aspects du développement durable.
Merci Kéline Couté. Gilbert Kilola, je rappelle que vous êtes chef de division en charge du développement durable au ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. Comment vous analysez cette déclaration de Carlos López?
Merci beaucoup pour la question.
Gilbert Kilola. Gilbert Kilola.
Oui, je vous écoute.
On vous capte très difficilement.
Allô.
Si, est-ce que vous me suivez?
Allô, je vous écoute.
Oui, je disais qu'on vous capte très difficilement. Est-ce possible de vous déplacer un tout petit peu, peut-être pour améliorer la qualité de votre ligne? Entre-temps, essayez de parler. C'est un exercice un peu compliqué.
Je suis dans un véhicule et je suis dans un embouteillage.
Voilà, la réalisation va tenter de vous rappeler pour trouver une solution. Entre-temps, René Ngongo, vous êtes coordonnateur du programme des industries extractives à l'ONG internationale WWF. Comment vous analysez cette déclaration?
Je crois que c'est une déclaration qui rejoint beaucoup d'autres qui ont été faites lors des rencontres au plus haut sommet, que ce soit à Rio ou ailleurs, où en fait, si je vois la déclaration de Carlos, il tire la sonnette d'alarme par rapport à l'explosion démographique qui est prévisible. Et là, il nous demande de prendre des décisions importantes. Et je pense que il a abordé les questions sur les questions d'agriculture, il a abordé les questions énergétiques, d'accès à la nourriture. Et je pense que ce sont des préoccupations qui doivent aller directement vers les décideurs pour qu'ils intègrent tout cela dans les plans de développement des pays africains.
Alors, à ce jour, René Ngongo, vous parlez d'une prochaine explosion démographique. Faut-il déjà s'en inquiéter, surtout en ce qui concerne l'Afrique?
Évidemment. Et c'est là que nous devons tirer les leçons d'ailleurs. Parce qu'on dit, il faut, lorsque la roue est là, il ne faut pas la réinventer. Nous avons vu comment ailleurs il y a eu explosion démographique et on est en train de faire des efforts inouïs pour réduire la pression. Il y a la pression démographique en Inde ou en Chine, il y a des limitations forcées de naissance. Nous, on n'est pas encore arrivé à ce stade. Je pense qu'il est important de commencer à initier des plannings familiales et améliorer ne serait-ce que l'aspect éducationnel et lutter contre la pauvreté, parce que le paradoxe fait que c'est dans les milieux pauvres qu'il y a une croissance démographique. Je pense que si on arrive à combiner l'éducation et l'améliorer et lutter contre la pauvreté, on a beaucoup de chances de sortir de ce boom démographique qui est envisagé.
Alors, il y a Carlos Lopez, sous-secrétaire général des Nations Unies, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, s'adresse bien sûr aux décideurs, mais il s'adresse aussi aux scientifiques. Quel pourrait être leur rapport dans cette question?
En fait, si j'ai suivi très rapidement, il s'adresse aux scientifiques, mais il parle aussi de l'économie verte. Il faut très rapidement, que ce soit dans le secteur agricole, dans le secteur de l'énergie ou dans d'autres secteurs, les transports, il faut très rapidement mettre en place les normes pour une gestion durable. Et je pense qu'en parlant de l'économie verte, nous pensons que c'est cette économie-là qui doit entraîner une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale, tout en réduisant de manière très significative les risques environnementaux et la pénurie des ressources. Il faudrait que ce soit les scientifiques ou les décideurs prendre des mesures, proposer et adopter des mesures pour diminuer les taux d'émission de carbone, notamment proposer l'utilisation rationnelle des ressources avec l'inclusion sociale tout en combattant la pauvreté et pousser vers le développement durable. Et un départ vers le développement durable passe toujours par une économie verte. Évidemment, quand nous parlons d'économie verte, c'est en opposition à l'économie brune qui est émettrice de carbone avec des effets sur le changement climatique. Parce que tout au long de son propos, j'ai retenu qu'il est revenu sur les risques de changement climatique.
Alors, en parlant d'économie verte, industrialisation verte, c'est-à-dire tenir compte de l'environnement, par rapport à l'Afrique, au problème de pauvreté, au problème de moyens, n'est-ce pas trop demander à un continent comme l'Afrique?
Je pense que tout doit passer par la gestion des ressources. Et je disais tout à l'heure, nous devons éviter les erreurs qui ont été commises par d'autres pays. Tout à l'heure, on a parlé, j'ai bien suivi Kelly qui a fait une synthèse en parlant du cas de la Grande-Bretagne qui a doublé son PIB en 115 ans et l'Afrique va le faire, je ne sais pas,
en 155 ans. L'Afrique l'a fait en une dizaine d'années.
Vous voyez déjà les risques de puiser les ressources en peu de temps. Et à ce moment-là, nous serons plus exposés. Et je pense qu'il y a des choix à faire et des choix qui doivent être rationnels dans le cadre de la maximisation de nos ressources. Je pense que sur les différents plans, la lecture rapide des propositions de Carlos Lopez peuvent s'intègrer dans les réalités de notre continent. Un continent qui a beaucoup de ressources, qu'il faudra gérer de manière durable, pour revenir au cas précis de la République démocratique du Congo, cela passe par un plan d'aménagement du territoire. Je voudrais même aller dans les détails, un plan d'utilisation rationnelle des ressources, où on sait que dans les 15, dans les 20, dans les 50 ans, comment on va utiliser nos ressources? Comment on va commencer par utiliser la ressource humaine? Ici, on aborde les questions de lutte contre la pauvreté, mais aussi d'éducation. Parce que, comme on l'a vu, une population qui n'est pas éduquée, c'est vraiment un risque pour l'avenir dans le cas de l'explosion démographique et aussi d'une meilleure gestion des ressources naturelles.
Gilbert Kilola, est-ce que vous nous suivez?
Oui, je vous écoute.
Merci beaucoup. J'espère que la qualité de votre ligne s'est améliorée. Je vous posais la question dans votre première intervention de savoir comment vous avez reçu, vous analysez la déclaration de Carlos Lopez, vous avez suivi l'intervention de René Ngongo. Quel est votre point de vue?
Effectivement, la démographie en Afrique, elle est trop forte. Et avec cette démocratie, elle devra s'affronter aux différentes ressources. Je crois que la déclaration de Lopez elle est tout à fait logique, et surtout que les populations n'augmentent pas seulement avec les naissances, il y a aussi les effets de déplacement des populations qui augmentent la démographie dans un pays. Alors, avec cette augmentation de la population, elle se rue facilement aux ressources telles que les ressources forestières, l'eau, et pour avoir besoin, quand elle a besoin de l'énergie.
Et donc, j'ai posé la même question à René Ngongo. Faudrait-il déjà s'inquiéter, surtout en ce qui concerne l'Afrique, par rapport à la démographie?
Oui, il y a à s'inquiéter en ce qui concerne l'Afrique. Plus particulièrement notre pays. Vous savez que le taux de croissance dans notre pays est d'environ 2,58%. Et avec ce taux de croissance, d'ici 2020, je ne sais pas à quelle population nous avons, nous serons 2050, 2000. Cette population, avec quelles ressources? Si nous ne protégeons pas déjà cette ressource, la génération future risque d'en pâtir.
Alors, qu'est-ce que vous répondez, Gilbert Kilola, à tous ces observateurs qui pensent que l'Occident n'aurait pas en fait raison de demander à l'Afrique de préserver son potentiel du moment que on détruit pratiquement la planète?
Oui, en fait, il faudrait une préservation de nos ressources. Mais c'est nous qui devons protéger ces ressources. Mais ces mêmes ressources sont attaquées aussi par la communauté internationale. Nous voyons ce qui se passe dans notre région de l'Est, par exemple. À l'Est, nous savons les conflits qui sont alimentés à ce niveau-là. Et les populations qui sont tout le temps en déplacement, et l'environnement, elle en souffre. Pendant que les générations futures en auront besoin. Donc la communauté internationale devait penser à cette population qui est en train de souffrir.
Gilbert Kilola, il y a Espoir Biamungu de Goma en Nord-Kivu qui dit « Je me demande si seulement le problème de démographie était résolu en Afrique sans que les guerres à répétition ne le soient. Aussi, que deviendra la pauvre Afrique? Malgré cette croissance à cause des guerres, les peuples seront exterminés de toute façon. Donc sans paix en Afrique, j'ai peur que rien ne puisse marcher. » Et donc il ne faudrait pas seulement faire un lien entre la démographie et le changement climatique, mais aussi la paix et le changement climatique en Afrique.
Il n'a pas tort de toute façon. Il faudra une paix et le changement climatique. Si nous devons entamer l'aspect paix, elle est primordiale pour le développement de notre pays et de l'Afrique tout entière. Aujourd'hui, avec les bandes armées qui pilulent dans la région Est, ces bandes armées, on ne sait pas comment elles sont armées. Et pourtant, elles sont cachées dans nos forêts. Mais elles sont toujours approvisionnées en armes. Par quelle voie ces groupes armés obtiennent leurs armes. Voilà où nous disons qu'il faudra que la paix soit une priorité pour que le développement de nos pays soit effectif.
Nous allons prendre pour vous, Gilbert Kilola, cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Grâce Bagula de Bukavu au sud Kivu. Notre pays, la République démocratique du Congo, devrait capitaliser ses ressources en eau et en énergie, voire même en potentialités agricoles, car nous renfermons à nous seuls plus de la moitié de ses ressources en Afrique. Le gouvernement doit ainsi mettre en place des politiques et des stratégies pour que, dans l'avenir, l'eau ne constitue pas un des prétextes d'agression de la République démocratique du Congo.
Gilbert Kilola, la RDC est-elle vraiment consciente du rôle qu'elle doit jouer par rapport au changement climatique compte tenu de toutes les ressources dont elle regorge?
Effectivement, elle est très consciente. Elle est très consciente dans la mesure où la RDC, notre pays, participe à toutes les réunions, à toutes les conventions liées au changement climatique. Et avec la participation de notre pays à toutes ces conventions, c'est une manifestation de bonne volonté pour lutter contre le changement climatique et ce pour le projet futur de nos populations. Et avec la participation, il y a des retombées qui nous arrivent. Aujourd'hui, par exemple, nous pouvons parler du cas du PANA, du programme d'action nationale d'adaptation aux effets des changements climatiques. Ce programme est en application dans notre pays. C'est pour dire que le pays vraiment s'engage, il y tient beaucoup à la lutte contre les changements climatiques.
La RDC s'engage, oui, Gilbert Kilola, mais est-ce qu'elle bénéficie de tous les avantages liés à son statut sur le plan mondial, pratiquement, en ce qui concerne le changement climatique?
Parler de tous les avantages, c'est trop dire, mais il bénéficie des avantages liés au changement climatique.
Par rapport au Brésil, par exemple?
Bon, par rapport au Brésil, nous ne pouvons pas dire que nous avons les mêmes avantages que le Brésil. Vous savez comment le Brésil est parvenu à avoir ces avantages-là. Si nous adoptons la même stratégie que le Brésil, je crois que ça pourra causer encore des avantages sérieux à l'humanité. Mais nous disons au sein de notre pays que nous devons préserver nos forêts. Le Brésil, vous savez comment il est arrivé à ce niveau-là. Est-ce que devons-nous copier le modèle brésilien? Je ne pense pas.
Merci Gilbert Kilola, on vous garde encore dans cette émission. Professeur Dieudonné Mossibono, bonsoir, vous nous suivez?
Oui, bonsoir.
Vous êtes professeur à l'université de Kinshasa, également environnementaliste et éco-toxicologue. Professeur, comment vous analysez cette déclaration de Carlos Lopez par rapport au taux de croissance, au taux démographique qui est croissant en Afrique et au changement climatique?
Oui, merci beaucoup. J'ai suivi mes compatriotes qui ont émis leur point de vue. Contrairement à ce qu'il déclare, personnellement, je trouve que parler de la démographie en Afrique aujourd'hui, c'est détourner les vrais problèmes. Parce que, je prends un exemple, la croissance démographique en Afrique en moyenne, c'est 3%. La RDC a 8% de croissance annuelle. Donc, logiquement, on ne devrait pas avoir des pauvres au Congo. Or, nous constatons qu'il y a des gens qui ne mangent pas au Congo, malgré que la croissance est de 8%. Mais le vrai problème, c'est la gouvernance. Il faut que les ressources africaines soient transformées en richesses réelles qui sont redistribuées parmi la population. Mais qu'est-ce qui se passe? Même aujourd'hui là, sans avoir atteint par exemple la capacité maximale portative pour la RDC, si aujourd'hui on doit voir le niveau de redistribution des richesses, c'est pas équitable. nous sommes dans un modèle qui est général en Afrique. C'est quoi? C'est le modèle de développement accumulation. Donc, on crée les richesses par l'exploitation des matières premières, qu'on appelle industrie extractive, sans valeur ajoutée, on exporte comme tel, qui n'est rien d'autre que l'économie des cueillettes. Et les retombées de cette économie-là ne sont pas redistribuées parmi la population. C'est une minorité qui s'accapare de plus de 95% des richesses générées par l'exploitation des matières premières. Dans ces conditions-là, on ne peut pas se développer. Et pour revenir aux effets du changement climatique, je suis d'accord que si on y prend garde, on sera surpris. Mais pas seulement le changement climatique, c'est le développement en général. Parce qu'on parle de l'économie verte, c'est pour se développer. Mais si on n'a pas de prévisions, parce que gouverner, c'est prévoir. Je vous dis que l'Afrique souffre de la mal-gouvernance. Il n'y a pas de prévision. On vit au jour le jour, on dépend des saisons et on est surpris par les événements qui nous arrivent. Regardez, même par rapport au conflit en Afrique, je prends un exemple plus récent. Il y a eu une guerre au Mali, mais l'Afrique, pour réagir, a mis beaucoup de temps de réunion en réunion. Il a fallu que la France intervienne pour que le Tchad l'accompagne. Pendant que la CDAO traînait, ou comment, je ne sais pas comment on appelle encore, les forces d'Afrique de l'Ouest là. C'est pour dire quoi? Pour dire que l'Afrique n'est pas prête à réagir aux catastrophes. Et l'une des catastrophes africaines qui est mondiale, ce sera le changement climatique. Mais les États du monde s'y préparent. Nous, on ne s'y prépare pas. On sera surpris. Et en ajoutant la mal-gouvernance, évidemment, ce sera une catastrophe qui va décimer tout le continent. C'est la raison pour laquelle sa déclaration a du sens. Mais pour moi, la cause principale, ce n'est pas la démographie. La cause principale, c'est la gouvernance. Parce que quand vous regardez, mais l'Europe est plus développée, est plus peuplée que l'Afrique. Pourtant, elle est développée. Parce que je conseille par rapport à la densité des populations. Vous prenez la superficie utile d'un pays ou d'un continent, vous divisez par la taille de la population, vous voyez le nombre d'habitants au kilomètre carré. L'Europe est surpeuplée par rapport à l'Afrique. Le Japon est surpeuplé par rapport à l'Afrique. Mais pourtant, ce sont des pays développés. La Chine, n'en parlons pas, ce sont des pays développés. Même si la Chine est considérée pays émergent, mais en réalité, c'est la deuxième économie mondiale. Mais nous, l'Afrique, le continent africain, où sommes-nous? Nulle part.
Professeur.
Et pour nous, c'est la gouvernance, il faut améliorer la gouvernance, je reviens là-dessus.
Professeur, il y a Franklin qui nous écrit de Bukavu, Sud Kivu, qui dit « La fécondité tend en baisse à différents degrés selon les pays. La politique démographique doit être bien pensée car il n'est pas bon de ralentir l'expansion démographique en Afrique quand les Occidentaux connaissent un déficit de la main d'œuvre avec cette politique, professeur. »
Ben, moi, je pense que en partie, il a raison, mais pas dans les désordres, parce que gouverner, c'est mettre de l'ordre. Donc, on va gouverner même la démographie pour mettre de l'ordre, pour que les naissances ne soient pas entre les mains des irresponsables, mais des gens qui mettent au monde et qui forment des citoyens utiles à la société. Au lieu de mettre au monde des déchets de la société, il faut mettre au monde des ressources pour la société, des citoyens qu'on va utiliser. C'est là où je rejoins mon ami René Ngong quand il a parlé d'éducation. Et vous allez éduquer qui si vous n'avez pas des enfants à l'école? Donc, il faut qu'il y ait naissance, mais également éducation, pour former des citoyens capables de prendre en main le destin du pays. Pas des enfants qu'on met au monde, qu'on abandonne comme les enfants des serpents, non, comme les petits serpents. Il faut que ce soit des enfants qui reçoivent une éducation. Et c'est ce qui nous manque. Et quand vous regardez en Afrique en général, et dans les pays comme les nôtres, en situation post-conflit, mais quel est le secteur le plus fragile? C'est l'éducation. Pourtant, c'est l'éducation qui devrait être le moteur de la société pour ne pas avoir en face des semi-lettrés dangereux. Vous savez, les semi-analphabètes ou les semi-lettrés, c'est vraiment des toxines sociaux et sociales plutôt. Parce que ces toxines-là font la confusion et font de l'amalgame du sophisme et embrouillent tout le monde.
Merci.
Donc, on se retrouve sans repère. Et vous voyez que c'est une société sans repère, sans référentiel. C'est une société qui navigue à vue et
merci,
donc qui n'a pas d'avenir, quoi. C'est un peu cela.
Merci, professeur. Je vous retrouve tout à l'heure, René Ngongo. Nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Mbujimayi au Kasaï-Oriental.
C'est Fabien Kakolo de Mbujmaï au Kasaï oriental. Si seulement la croissance de la population empêchait le développement, le pays tel que la Chine ne pouvait pas aller loin. Le problème en est que nous les Africains, nous manquons les moyens suffisants mis à notre disposition pour quitter le tiers-monde.
Et donc il rejoint un peu le prof Mossi Bono quand il dit que la démographie en fait c'est un faux problème. Qu'est-ce que vous en pensez René Ngong?
C'est vrai que le prof et même l'intervenant tout à l'heure peuvent avoir raison, mais nous sommes en train de parler de prévention. Aujourd'hui, quand je parcours toute la documentation nationale, même des organisations comme PNUD, l'accès à l'eau, à l'électricité est de moins de 10% pour l'ensemble des Congolais. L'accès à l'eau potable aussi est inférieur à 30%. On n'a pas encore l'explosion démographique qui inquiète, mais essayons de nous projeter dans 10 ans, dans 20 ans. Ce sera une menace si aujourd'hui on ne prend pas des dispositions appropriées. Surtout qu'il faut lier les messages de Carlos à toute la problématique du changement climatique. Si aujourd'hui l'accès à l'éducation est difficile quand on n'a pas encore atteint l'explosion démographique, nous pensons que la meilleure façon de gérer, c'est de prévoir. Et c'est comme ça que nous avons proposé des mesures palliatives pour empêcher justement d'arriver à une situation où on va accroître la pauvreté qui est une toxine. Je partage les points de vue du professeur, mais aussi vous comprenez que nous devons être inquiets par rapport à ce qui se passe ailleurs. Nous avons, c'est vrai qu'ils ont cité les pays comme la Chine qui est un pays émergent, mais nous pouvons prendre aussi des pays comme l'Inde où le niveau de pauvreté est exagéré à cause entre autres de l'explosion démographique.
Il y a Amos qui nous écrit de Bukavu Sud-Kivu qui dit « Les mauvaises conditions de vie de la population africaine n'émanent pas de sa démographie, mais plutôt d'un manque des dirigeants responsables ayant une vision du développement, certes une volonté politique. À la tête de beaucoup des pays africains, la Chine, malgré qu'elle occupe la première place sur le plan démographique, fait partie des pays développés et forts de la planète grâce à son leadership responsable. » Le problème ne se résume-t-il pas en la personne de nos dirigeants, comme insistait tout à l'heure le prof Mossi Bono?
C'est vrai, il y a toute la question de gouvernance et même de l'équité, de la compassion, du partage des ressources qui est déploré en Afrique, parce que c'est en Afrique qu'on trouve pratiquement un petit pourcentage des hommes qui sont plus riches par rapport à la majorité des populations qui croupissent dans la misère. Et ce qui est paradoxal, c'est des pays qui sont potentiellement très riches en ressources. Donc c'est vrai qu'ils ont raison d'aborder la question de la gouvernance. Nous avons défini l'économie verte, on a abordé les questions d'équité sociale, parce que tant qu'il n'y a pas de partage équitable des ressources, on va continuer à créer les fossés entre les riches et les pauvres. Et à ce moment-là, les pauvres, comme on l'a dit tout à l'heure, ça se caractérise aussi par l'accroissement, par un nombre élevé d'enfants qui provoque ce boom, et à ce moment-là, on n'a pas accès à l'éducation, on n'a pas accès à l'électricité ni à l'eau, et ça pose réellement des problèmes.
Et parmi les propositions, Carlos Lopez propose par exemple qu'il faut d'investir davantage dans la climatologie, les services et la production des données de haute qualité en matière de climat pour faciliter le développement des systèmes d'alerte, la vulnérabilité, financer la recherche. L'Afrique a-t-elle des moyens pour tout ça?
Quand je compare toutes les potentialités de l'Afrique, je dis oui, l'Afrique a les moyens de faire tout cela. Et nous revenons encore à l'épineuse question de la gouvernance qui fait que les revenus qui devaient aller à la recherche servent à autre chose. Parce que s'il y a une justice distributive, on pouvait créer des emplois et l'économie verte aussi suscite des emplois. Il y a les emplois verts qu'on peut avoir, ne serait-ce que dans les recyclages des déchets, dans toutes les questions d'économie et d'énergie nouvelle et renouvelable. Et cela passe par les choix des politiques et des décisions. Il y a des choix qui sont à bannir. Moi, je suis estomaqué de voir qu'en plein en plein 21e siècle, on puisse encore promouvoir des énergies thermiques, comme on le fait maintenant. Il y a un grand projet à la Gécamines. Aujourd'hui, au lieu de parler de la capitalisation de nos potentialités touristiques, il y a des sites comme Virunga qui sont menacés par l'exploitation du pétrole. Ce sont des choix qui, au finish, mettent en péril tous les projets des communautés et qui accentuent les fossés entre les riches et les pauvres.
Gilbert Kilola, vous êtes chef de division en charge du développement durable au ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. En fait, le vrai problème, c'est à votre niveau, comme l'ont dit René Ngongo et le professeur Mossi Bono. Gilbert Kilola.
Allô?
Gilbert Kilola, vous nous suivez?
Allô?
Est-ce que vous nous suivez?
Oui, je vous suis, mais un peu difficilement.
Voilà, je disais que le vrai problème, c'est au niveau de... à votre niveau, à vous, les décideurs.
Les décideurs, en fait, ils font un effort. Je crois qu'on doit partir de quelque part. Nous ne pouvons pas penser que on peut d'un seul coup réaliser ce que tout le monde attend. Sur le point de la gouvernance, je suis tout à fait d'accord. La gouvernance, les pays africains sont en train quand même de fournir un léger effort pour améliorer cette gouvernance. Sauf que il y a cette démocratie aussi qui vient perturber la bonne marche de cette gouvernance. Pensons un peu au Centrafrique, où la guerre est encore sévie. Aujourd'hui, ce sont des troubles. Alors que peut-être qu'ils se pouvaient attendre jusqu'à ce qu'on atteigne les élections, tout pourrait aller au mieux. Donc la gouvernance, en fait, il faudra que nos pays s'y mettent. Et je crois qu'ils sont en train de fournir un effort pour que cette gouvernance soit respectée.
Alors, parmi les solutions, le professeur Mossi Bono et René Ngongo ont insisté notamment sur l'éducation, l'économie et l'industrialisation verte. La RDC, à ce jour, a-t-elle, par exemple, les moyens de financer sa recherche?
Bon, les moyens, vous-même, vous connaissez le budget qui est alloué à ce secteur. Avec ce budget, est-ce que vraiment on peut financer la recherche? C'est un peu difficile. Je crois que le problème se pose plutôt dans la mobilisation des ressources. Il faudra qu'on arrive à mobiliser les ressources. Comme dans notre pays, il y a beaucoup de ressources qui échappent au contrôle du pouvoir. Il y a des ressources, beaucoup de ressources qu'on peut canaliser dans le trésor et ça peut augmenter le budget de l'État. Mais avec un budget de 8 milliards, je ne sais pas comment on peut réaliser des bonnes intentions du gouvernement. Mais il faudra qu'on reconnaisse quand même qu'il y a un effort qui est en train d'être fourni.
Parmi les solutions, il y a également Maître Jovial Bakoulou qui nous écrit de Beni Boutembo Nord-Kivu qui propose que l'État devrait songer à la limitation des naissances à travers le pays, car seul le fait de posséder un vaste territoire inhabité ne suffit pas pour commencer à mettre au monde des enfants sans calcul. Doit-on arriver jusqu'à là? Gilbert Kilola. Gilbert Kilola. Voilà, la réalisation va tenter de le retrouver. Professeur Dieudonné Mossibono, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Manono Katanga.
Sylvain Katongo de Manono au Katanga, les analyses des spécialistes occidentaux envers l'Afrique sont souvent alarmistes, soit pour gagner un marché ou pour donner une fausse image que les Africains ne font rien pour améliorer leur propre situation. Souvent, de telles études restent des déclarations de bonnes intentions.
Réaction, professeur Mossibono.
Ben oui, hein, je pense que ce qu'il dit là peut avoir des sens, mais la faute incombe aux Africains. Tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir si la RDC pouvait financer sa recherche. Je suis chercheur, je vous dis que non. Il y a zéro, Zaïro zéro, Makoto zéro, franc zéro, dollar, la recherche. Tout simplement parce qu'on n'a pas une vision claire. Vous savez qu'on ne peut pas se développer sans recherche. Quand on prend l'exemple des États-Unis, en 2008, Obama arrive au pouvoir, le pays est en crise, en récession. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi des chercheurs dans chaque secteur, il les a mis autour de lui. Et je me souviens, il leur a dit ceci, je ne vous ai pas choisi pour venir dire oui, oui, à ce que je veux dire, mais je vous ai choisi pour qu'on puisse discuter sur mes idées et arriver à un compromis pour appliquer ce qui est valable. C'est ce qui manque en Afrique. Parce qu'en Afrique, c'est quoi? Même les scientifiques qui devraient réfléchir objectivement sur les devenirs du pays, ils sont inféodés à des pensées parfois rétrogrades. Et vous comprenez que dans ces conditions-là, on n'a plus de repères. Je vous ai dit tout à l'heure là qu'une société où même les spirituels est foulée aux pieds, même les hommes de Dieu se compromettent pour l'argent, c'est une société qui n'a pas d'avenir. Et l'Afrique, c'est ça. Regardez, quel est le modèle aujourd'hui en Afrique? Quand nous étions des petits-enfants à l'époque coloniale, je crois qu'on avait des modèles, l'enseignant, le médecin, l'agronome. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de modèles. Aujourd'hui, tout le monde a comme modèle. Pour ceux qui ont étudié les modèles, c'est la politique, politicien. Pour les autres, c'est les musiciens. Bon, je ne déteste pas les musiciens parce qu'ils vendent notre culture. Mais de quelle manière? C'est toujours la gouvernance qui pose problème. Donc, on peut remettre de l'ordre et montrer aux yeux du monde que l'Afrique est capable de s'organiser pour jouer le rôle qu'on attend d'elle. Donc, ça ne sert à rien d'accuser les autres. Il faut d'abord qu'on commence par arranger chez nous. Parce que le développement dont il est question aujourd'hui, c'est d'abord une affaire intérieure. C'est l'Afrique qui doit s'organiser, qui doit créer les richesses, qui doit développer la consommation. Il doit terminer en disant qu'une société qui n'a pas de classe moyenne, c'est une société qui ne doit pas se développer. Parce que la classe moyenne, c'est elle qui crée les richesses et c'est elle qui consomme. Le développement des États-Unis, c'est pas par rapport à ce que le monde consomme comme made in US. Non, mais par rapport à ce que les Américains consomment comme made in US. Parce que le marché interne est très important. Et quand vous voyez maintenant la guerre entre l'Europe, l'Union européenne et les États-Unis, c'est au niveau de la consommation intérieure.
Professeur.
L'Europe est en difficulté parce que les Européens consomment de moins en moins le made in France, made in Germany, et ainsi de suite.
Professeur.
L'Allemagne, ça va un peu, elle sort du lot, mais en général, il y a crise au niveau de l'Union Européenne par rapport à l'Amérique.
Professeur.
Quand Obama a pris le pouvoir, l'Amérique était en récession. Aujourd'hui, ils ont une croissance de 2,5. Mais rappelez-vous que la RDC a une croissance de 8%. 8% et la démographie de 3%. Mais les Congolais sont derniers au monde et les plus pauvres du monde.
Professeur.
Donc, c'est pour vous dire que la démographie n'est pas la raison de la déboire actuelle, des déboires actuels. C'est plutôt la gouvernance qui pose problème en Afrique.
Et donc, professeur, je rappelle entre-temps qu'il nous reste moins de 7 minutes pour terminer l'émission. Et donc, à comprendre votre analyse, vous ne partagez pas le point de vue de Maître Jovial Bakoulou qui demande, lui plutôt, que l'État puisse limiter les naissances, par exemple. Brièvement, je vous en prie.
Ben, pour moi, la limitation des naissances, comme politique, je pense que c'est pas le moment. Mais ce qui est important, la planification. Il faut que les gens mettent au monde en fonction de leur capacité à donner à ses enfants une éducation pour en faire des citoyens dont le pays a besoin. pas mettre au monde des enfants pour les oncles, les neveux ou je ne sais pas qui puissent en prendre, les prendre en charge. Chacun doit se charger de sa progéniture afin de ne plus avoir les enfants de la rue. La rue ne met pas au monde des enfants. Ils ont des parents, mais des parents irresponsables. Vous n'avez pas de moyens, ne mettez pas au monde. Vous avez des moyens, mettez au monde, donnez aux enfants la bonne éducation. Parce que le pays a besoin du capital humain. Si l'éducation est bonne, qu'il y a des jeunes bien formés, bien éduqués, mais la relève sera assurée rapidement.
Merci, professeur.
Je termine en disant, je conclue pas, mais je dis ceci, on a parlé du temps, mais non, le problème n'est pas de terminer tous les problèmes du coup, mais le problème est de mettre le pays sur les rails.
Merci,
vous savez, quand on met le pays sur les rails dans la bonne direction, ceux qui viendront après ne vont plus répéter les bêtises, ils vont suivre la même dynamique et on va avancer.
Merci, professeur. Souffrez que je vous arrête à ce niveau pour vous donner le temps de conclure, parce qu'il nous reste au moins de 4 minutes. René Ngongo, avoir toutes les propositions faites ici, il faut renforcer l'éducation, renforcer la recherche, renforcer ceci et cela, mais on a l'impression que par rapport à la RDC, ça risque d'être compliqué.
Ça risque d'être compliqué tout justement parce que il y a un déficit de mise en œuvre de toute la réglementation. Quand vous regardez la panoplie de nos lois et de toute la réglementation nationale et même des conventions ratifiées par notre pays, il y a des orientations stratégiques qui, une fois mises en œuvre, peuvent nous aider à résoudre ces questions-là. C'est vrai qu'on a abordé toutes ces questions d'éducation, mais moi j'aimerais insister sur la question de gouvernance, mais aussi de la planification. Et cela passe par un plan d'affectation. N'oubliez pas que nous parlons des ressources. Et dans ces ressources, il y a des ressources épuisables et celles qui sont inépuisables. Donc il est question de voir comment on peut les gérer pour le bien-être des communautés et des générations actuelles et futures.
Et en guise de conclusion, peut-on espérer par rapport à tout ce qui s'est dit sur le changement climatique en ce qui concerne la RDC?
Je crois que la RDC, c'est un potentiel énorme. Nous avons une potentialité en termes hydrographiques et forestiers, même des richesses qui sont à capitaliser. Et la RDC doit tirer les leçons des erreurs qui ont été commises ailleurs pour pouvoir gérer durablement ses ressources en mettant en place un système réglementaire adéquat et surtout un contrôle adéquat pour éviter toutes sortes d'exploitations illégales et illicites.
Gilbert Kilola, est-ce que vous êtes en ligne, vous nous suivez? Merci beaucoup. L'émission va toucher à sa fin. Il faut déjà conclure. Vous qui êtes parmi les décideurs, qu'est-ce qu'on peut retenir pour vous en guise de conclusion par rapport à cette sonnette d'alarme qui est tirée, surtout en ce qui concerne la RDC?
Ce que nous pouvons retenir, c'est qu'en fait, la RDC, je crois qu'elle est sur une bonne voie et nous devons chercher à l'encourager. C'est tout ce qui est pour la lutte contre le changement climatique. Et dans le cadre de son développement, nous devons encourager les actions qui sont en train d'être menées. Il y a en fait des plans qui sont en exécution actuellement dans ce domaine. Et avec les potentialités que regorge la RDC, je crois qu'il y a espéré au développement.
Merci Gilbert Kilola. Je rappelle que vous êtes chef de division en charge du développement durable au ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. Professeur Mossibono, pour vous, qu'est-ce qu'il faut retenir? Faudrait-il espérer en ce qui concerne la RDC et le changement climatique?
Merci beaucoup. Je pense que la RDC doit insérer dans sa politique générale de développement la politique par rapport au changement climatique. Vous savez, nous sommes la solution mondiale par rapport aux préoccupations du changement climatique. D'abord parce que nous avons la forêt qui constitue le deuxième poumon tropical du monde, et nous avons le potentiel hydroélectrique qui constitue une des formes d'énergie propre. Donc si on peut développer l'hydroélectricité, on va réduire la consommation de l'énergie fossile, on va créer les richesses réelles et on va réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre.
Merci.
Donc, la balle est dans notre camp, il faut améliorer la gouvernance pour aller de l'avant.
Merci, professeur Dieudonné Mossibono. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Kinshasa, également environnementaliste et écotoxicologue. Merci aussi à René Ngongo, coordonnateur du programme des industries extractives à l'ONG internationale WWF. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. L'information continue sur radiocapi.net. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, de nous avoir suivis. Au revoir.